En 1862, Miroslav Tirsch et Jaroslav Fugner fondent le Sokol, un mouvement gymnastique patriotique qui s'inscrit dans le mouvement général de la Renaissance nationale tchèque. Acteur politique majeur, le Sokol participe grandement à la fondation de l'État tchécoslovaque, dont on fête le centenaire cette année. De même, il sème un peu partout dans le monde, en Espagne, en Amérique du Nord, mais aussi en France, où le tout premier Sokol à l'étranger voit le jour en 1892. Rencontre aujourd'hui avec trois membres du Sokol de Paris, dans le cadre de notre émission spéciale, alors que s'achève ce vendredi le 16e SLET, ou Grand Rassemblement des Sokols, à Prague, des propos recueillis par Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui en studio des membres du Sokol de Paris, le Sokol de Paris qui va être récompensé par le prix qui est récompensé par le prix Gratias Agit qui est remis tous les ans par le ministère des Affaires étrangères tchèque aux personnalités ou institutions qui diffusent la bonne renommée de la République tchèque à l'étranger. Et dans ce studio, donc, j'accueille ici Jiří Bystrický, donc, qui est l'ancien président du Sokol, Marie Roy, qui est responsable des affaires culturelles, et Jiřina Bystrická, qui était monitrice dans le cadre aussi du Sokol, en chef dans le cadre du Sokol il y a quelques années, j'imagine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler un petit peu des activités proprement dites du Sokol aujourd'hui, rappelez-nous en quelques mots, si c'est possible, ce qu'est un Sokol pour les personnes qui ne sauraient pas et comment sont nés en fait les Sokols en Tchécoslovaquie.
Sokol, c'est, littéralement, ça veut dire faucon. C'est le symbole d'un homme courageux, avec beaucoup de qualités. Et donc, c'était choisi comme le nom pour l'organisation qui était fondée dans le pays tchèque en 1862.
C'était une organisation, de gymnastique à la base.
Surtout de gymnastique. Il y avait d'autres sports aussi. D'escrime de chevaux, je ne sais pas. Il y avait d'autres choses, peut-être. En France, à Paris, Sokol est fondé en 1892. Sur l'incitation de président de la Fédération gymnastique française, Monsieur Jean Sambeuf, qui est venu au deuxième SLET de Sokol à Prague. Il a aimé beaucoup, donc il a incité des Tchèques pour organiser une section gymnastique d'une organisation qui existait déjà. Et puis, un an après, les gens se sont décidés de renommer l'association Sokol de Paris.
Si je peux vous interrompre juste deux secondes, parce que vous avez dit le mot SLET, vous pouvez me traduire pour les francophones, c'est un grand rassemblement, c'est des grands rassemblements gymnastiques.
Oui, justement, alors SLET, c'est comme rassemblement de Sokol, donc rassemblement de faucons qui s'envolent dans un endroit pour fêter quelque chose. Mm-hmm. Donc, l'organisation Sokol de Prague, maintenant, organise tous les 6 ans un SLET comme ça.
Ah, il faut préciser quand même que quand les Sokols sont nés en Tchécoslovaquie, donc à la fin du 19e siècle, évidemment, il y a un aspect sportif au Sokol, mais il y a aussi une dimension plus politique et, je dirais, plus nationaliste ou patriotique, on va dire, plutôt que nationaliste. C'est plus juste. Et ça va de pair, c'est pas uniquement le sport.
Oui. Et ce nationalisme, finalement, on le voit au début de la Première Guerre mondiale, quand les Sokols de Paris ont décidé que tous les hommes valides devraient se porter volontaires dans l'armée française. Et comme tous ces hommes étaient autrichiens, en fait.
Officiellement. Puisque la Tchécoslovaquie n'existait pas encore.
Ils n'étaient pas admis dans l'armée française, mais ils étaient admis à la Légion étrangère. Et ils ont formé une compagnie. Et comme ils étaient beaucoup d'eux venaient justement du Sokol, il y avait aussi une autre organisation qui s'appelait Rovnost. Mais ces gens-là se saluaient par un salut tchèque, Nazdar, par un salut Sokol. Et donc, on a appelé la compagnie Nasdar.
Tout à fait, qui a été intégrée en fait à ces armées, en tout cas à la Légion étrangère.
À la Légion étrangère.
Qui oui. combattait en fait la Triple Alliance à l'époque. Et alors d'ailleurs, il faut aussi préciser, du coup, et ça va évidemment de pair avec ce que vous dites, que les Sokol ont donc joué un rôle majeur de soutien à Tomasz Garek Masaryk pendant la Première Guerre mondiale. Peut-être que soit vous, soit Marie pourrait en dire quelques mots.
Effectivement, parce que finalement, c'est donc tout à fait la force populaire du peuple qui parlait tchèque, qui s'est développé quelque part, c'est à travers les artistes avant-gardistes tels que se mettent à la musique, Dvořák, des écrivains déjà aussi, satiriques, Havlíček Borovský et autres, Božena Němcová, cette sensibilité vis-à-vis de la langue tchèque. Et finalement, effectivement, petit à petit, à travers ces idées qui sont cristallisées ici à Prague, dans ces mouvements qui sont un petit peu, je dirais pas copiés, mais ils faisaient la même chose dans les pays allemands, vous savez. C'était réunion, c'était quelque chose de très moderne. Mmh. En époque, au début, c'était que des hommes, plus tard aussi des femmes, qui, de tous les milieux sociaux, c'était des ingénieurs, des architectes, des ouvriers qui se tutoyaient, qui s'appelaient bratche, bratre, frère, hein, sœur. C'était cela, donc c'était quelque chose de jamais vu et très très progressiste, je dirais. Et effectivement, Tomasz Garek Masaryk a tout à fait puisé sa force lui-même. Donc à un moment donné, ce soutien qui lui arrivait de chez lui, de ses propos, de cette Moravie, et par la suite aussi, ces mouvements ici en Bohème, parce qu'effectivement, des fois, les sensibilités religieuses et politiques dans ces pays ex-royaume de Bohème n'étaient souvent pas les mêmes.
Alors, c'est aussi la même chose hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, me semble-t-il. Les Sokol, pour le coup, de Paris, et peut-être d'ailleurs de manière cachée, en tout cas, s'engagent aussi dans la résistance. Hein, c'est toujours le même mouvement.
Oui. Oui, oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup moins marqué, disons, je ne sais pas. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait 70 personnes du Sokol qui sont tombées dans les batailles. 70 personnes.
70 personnes, presque.
Alors que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était 16 personnes. C'est dû au caractère de la guerre. La France était occupée, donc c'était pas pareil.
Alors évidemment, 1948, c'est une rupture majeure, hein, puisque le coup de Prague arrive en février 1948. Les communistes interdisent le Sokol, puisque c'est le symbole de la Première République tchécoslovaque. Donc le Sokol est interdit par le Parti communiste, mais évidemment, le Sokol de Paris étant en France, continue d'exister. Comment ça se passe, en fait, pour le Sokol de Paris, justement, à l'époque, puisqu'il n'y a plus aucun lien direct avec des personnalités Sokol en Tchécoslovaquie, mais qui, évidemment, n'ont pas les moyens de pratiquer, finalement, de faire vivre cette association.
C'était pas seulement à Paris, mais il y avait aussi Sokol à Munich, par exemple.
Il y avait dans d'autres
pays, aux États-Unis. Et tous ces Sokol à l'étranger se sont mis ensemble d'accord qu'il faudrait faire une centrale ou un centre d'où on pourrait préparer une activité. Et on s'est mis d'accord de faire des sleds aussi à l'étranger. Le premier qui n'était pas un sled officiel s'est passé à Paris, 1954. Et on prit part seulement les Sokol européens. Il n'y avait pas des Américains, des Australiens, donc on ne le compte pas parmi les Sokol de ce centre. Et après, il y avait en tout 3 sleds à Vienne, en 62, 72 et 82. 2 sleds à Zurich, 76, 86. Et un à Montréal, 67, je crois. Et puis à Paris, en 1990, c'était un dernier sled qui était formidable parce qu'il y avait 500 Sokol de la Tchécoslovaquie qui se sont préparés un peu clandestinement avant novembre 89 et après ouvertement pour pouvoir participer. Ils ont participé avec nous. Il y avait plusieurs mouvements d'ensemble et on a merveilleux souvenir.
Bah, j'imagine, hein, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est une transition toute trouvée, puisque en effet, vous dites donc ce SLED, ce rassemblement a eu lieu à Paris en 1990, c'est quelques mois après la chute du mur de Berlin, rideau de fer. Qu'est-ce que justement ça a changé pour le Sokol de Paris en particulier et les autres Sokols de l'étranger, cette chute du communisme?
D'un côté, c'était vraiment de la joie, parce qu'on était très heureux d'accueillir. Et puis, petit à petit, les Tchèques qui étaient à Paris, au Sokol, venaient moins souvent faire la gymnastique parce qu'ils pouvaient déjà partir pour Prague, pour Brno.
Facile,
pour
oui,
et ce lien, qu'on avait toujours un lien très fort entre ceux qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas retourner en Tchécoslovaquie, qui revenait très régulièrement au Sokol et on était toujours ensemble. Et puis quand cette possibilité est venue, on a pu voyager. Il ne mettait pas autant de temps pour le Sokol.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. Finalement, c'est que avant 1989, le Sokol de Paris a servi d'une certaine manière un petit peu de creuset pour tous les émigrés finalement tchèques. Hein. Peut-être qu'ils soient Sokol ou pas. En tout cas, il les a drujit, hein, il les a rassemblés, associés ensemble. Vous dites qu'en effet, après 89, disons que le Sokol a une utilité, mais avait peut-être a perdu cette dimension-là un petit peu, ce qui est logique. Où en est le Sokol de Paris aujourd'hui et quelles sont ses activités? Quelles activités propose-t-il aux personnes qui sont membres?
Il n'y a plus de gymnastique au Sokol chez nous. Nous avons toujours le volleyball qui est apprécié aussi par les étudiants tchèques qui viennent à Paris. Et nous avons aussi du yoga qui est enseigné.
Et les
Sinon,
danses
bon, il y a toujours les danses folkloriques qui étaient c'est une tradition au Sokol de Paris. Le groupe folklorique fait toujours une prestation pendant le bal que Sokol de Paris organise une fois par an. Donc, et puis, alors nous avons aussi le pré-Sokol à Gournay-sur-Marne, où on se réunit plusieurs fois par an, et où viennent non seulement les Sokol, mais aussi d'autres Tchèques de Paris, qui viennent très volontiers là-bas.
Sur ce pré-Sokol, il y a un petit monument aux morts, à ces Sokols qui sont tombés pendant les deux guerres mondiales.
Et
la première fête au printemps, c'est un peu solennel. On va solennellement avec un drapeau, quelqu'un de l'ambassade, souvent l'ambassadeur lui-même, qui vient avec nous et on pose un gerbe.
On salue,
on chante les hymnes. Et on va aussi au cimetière à Arras une fois par an. Okay. Aussi le 28 octobre, Sokol toujours participe l'Arc de Triomphe. Et le 1er novembre, au cimetière Père Lachaise aussi, il y a un monument aux morts tchèques. Donc, Sokol a toujours participé, continue à le faire.